Alors, il me semble que vous qui avez prié ce matin, qui avez chanté les chants qui ont, j'ai l'impression que vous avez vu ce qu'il y avait dans mes notes. On a parlé de grâce. On a parlé du Saint-Esprit qui nous a amenés à Christ. On a parlé du rocher. On va parler du rocher d'Horeb. De Horeb et puis de Kadesh. Et comme introduction, je lisais dernièrement un petit compte-rendu de Donald G. Vous vous souvenez de Donald G? C'est une personne qui a survolé un petit peu le réveil de Pentecôte en Angleterre et qui a été très prolifique en écriture sur les dons spirituels, sur les ministères, etc. Et déjà, à l'époque, il disait que la prédication, il faut absolument qu'elle soit ointe. C'est un challenge, c'est pas si simple que ça. Si la prédication, si la lecture, si n'est pas ointe, les cœurs vont s'endurcir. Et il y a qu'une seule chose qui peut travailler les cœurs, qui peut ameublir, qui peut disposer les cœurs de l'homme, le cœur de l'homme, c'est l'onction. C'est la présence de Jésus. C'est l'onction. Si l'onction du Saint-Esprit n'est pas là, les cœurs s'endurcissent. Même sous une apparence d'humilité, sous une apparence de service, de prédicateur, de tout ce qu'on veut, de prière, etc., d'engagement, de consécration, les cœurs s'endurcissent. Parce que c'est surnaturel. Et que le naturel ne peut pas venir remplacer le surnaturel. Le naturel ne peut pas prendre la place du surnaturel, c'est pas possible. Le cœur de l'homme ne peut pas être bien disposé par lui-même. Il faut l'aide de Dieu. Et pour que la parole puisse pénétrer au fond des cœurs et produire son fruit, rien de l'homme ne peut l'aider. Il faut l'onction du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit là, l'onction qui était sur Jésus-Christ. Il faut que l'onction du Saint-Esprit soit là pour que la parole puisse tomber dans des cœurs prêts à recevoir la semence. Et c'est là que la semence porte du fruit. Et c'est là que nos vies sont transformées. C'est là que nos vies changent. Je me souviens d'un moment, un dimanche matin, où je préparais, où je finalisais ma préparation pour vous apporter quelque chose, et où j'avais tout préparé, j'étais bien habillé, mes notes étaient prêtes, j'avais peaufiné, et puis je termine par la prière juste avant de partir. Et le Seigneur, avec beaucoup de douceur, est venu me dire, il m'a fait comprendre, hein, j'ai pas entendu une voix, mais j'ai vraiment reçu ça sur mon cœur, il dit, ça y est, tu es prêt, tu as bien préparé, tu t'es préparé, tu es beau, enfin, je suppose, tes notes sont bien, il dit, et si tu pensais à moi maintenant? Parce que la chose primordiale dans ce bas monde, c'est ma présence. Il n'y a rien qui puisse secourir l'homme, lui apporter la paix qu'il cherche, que ma présence. Et tu auras beau te préparer de la meilleure façon possible, c'est bien, continue de le faire. Mais ce qu'il faut absolument et avant toute chose, c'est ma présence. La présence de celui qui a vaincu, la présence de celui qui fait tout à merveille, la présence de celui qui nous a amenés à Christ, la présence de celui qui nous place sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes, la présence de celui qui nous garde fidèles dans ce bas monde, la présence de celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de Satan, qui est là, l'accusateur, et qui se cache comme un lion rugissant qui est prêt à nous dévorer à chaque instant. Il n'y a que la présence de Jésus qui puisse être notre seul secours. Et cette présence de Jésus, elle est matérialisée par le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité qui vit en nous, la personne l'esprit de Jésus-Christ, qui est aussi une personne qui vit et dont la tâche est justement de nous vivifier dans notre être et de faire en sorte que toutes les vertus, tout ce que Christ est, nous soit donné, nous soit accordé par grâce. Et ça, constamment, du soir au matin, du matin au soir. C'est l'Esprit Saint qui est le roi en nous. C'est lui qui représente le Christ. Et c'est lui qui est mandaté pour nous faire marcher dans la vérité. Il va aller prendre des choses qui sont dans le cœur du Père. Il va venir pour nous les apporter. C'est sa mission. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, par nous-mêmes. C'est sa mission. Il va aller dans le cœur du Père, dans les trésors. Il va aller chercher, il va aller fouiller et il va nous donner absolument tout ce que le Père a pour nous l'apporter, pour nous le révéler, pour nous transformer et nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est sa mission. C'est sa mission. Et j'ai l'habitude de dire que un jeune chrétien doit comprendre deux choses, oh certainement d'autres encore, mais deux choses essentielles. C'est que sa conversion ne fait pas de lui quelqu'un qui doit jouir d'un bonheur sur cette terre, s'installer dans le monde, jouir du monde et vivre sa vie comme il l'entend. Ça, c'est la première chose qu'il doit comprendre. La deuxième chose qu'il doit comprendre, c'est quand en se convertissant, il rentre dans un combat à mort, dans une lutte acharnée entre le bien et le mal, entre l'enfer et le paradis, entre le céleste et le terrestre. Ça, il doit bien le comprendre. On doit le lui enseigner. Parce que le diable, lui, il ne se repose pas et il est là absolument, constamment, pour nous attaquer et pour nous déstabiliser. Et surtout, pour éteindre quelque chose d'essentiel en nous. C'est la vie de l'esprit. Parce qu'il sait, lui, que sa défaite dépend du Saint-Esprit. Il le sait mieux que nous. Il sait que tout ce qu'il peut mettre, ou tout ce qu'il a construit, ne peut être détruit que par une seule chose. Le souffle. Le souffle de l'esprit qui sort de la bouche de Christ. Une seule chose. Tout ce qui est défaillance personnelle, tout ce qui est ténèbres personnelles, incompréhension, forteresse de pensée, tout ça ne peut être détruit que par une seule chose, le souffle de Dieu, le Saint-Esprit se manifestant dans notre vie. Alors après, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conduire à cela, la méditation, la prière, les échanges fraternels. Mais la seule chose qui va transformer le terrestre en céleste, c'est l'activité, l'action de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un homme et d'une femme et d'un enfant. C'est tout. Galates 5, versets 22-23 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Le fruit de l'Esprit. Quand je lis cela, je suis abattu. Parce que je le vis pas. Ou trop peu. Ou pas assez. C'est le fruit de l'esprit. Et je me dis, en quoi tu m'as séduit? En quoi je suis encore charnel, Seigneur? Parce que, vous avez noté, nous sommes appelés à porter le fruit de l'esprit, pas à les fabriquer. Ça vient pas de nous. Toutes les vertus du Christ sont ici, dans ce verset. Et c'est l'Esprit Saint qui fait en sorte qu'on le porte. Le sarment ne fabrique pas les raisins, les grappes. C'est la sève qui est en lui qui va donner le fruit, qui va lui donner la capacité de porter le fruit du cep. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donnera la capacité non pas de fabriquer les choses, Et je me suis dit, mais combien de fois j'essaye encore de fabriquer toutes ces choses par moi-même, alors que... Mais comprends donc, une fois pour toutes, que c'est l'Esprit Saint qui est là en toi, qui doit grandir en toi. Donc, si lui doit grandir, moi je dois diminuer. Eh oui, ça y est. Pour qu'il prenne plus de place, et pour qu'à travers le Saint-Esprit, eh bien, je puisse dire, Christ règne en moi. Et s'il règne en moi, c'est pas parce que j'aurais fait des choses par mes propres efforts, c'est par grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous ressemblons davantage au Seigneur Jésus. C'est par grâce et par grâce seulement. Ce n'est pas par les œuvres, pour que nous ne soyons pas à nous glorifier, c'est par grâce. Et cette grâce, elle coule comme l'eau du rocher dont je vais vous emmener tout à l'heure, Kadesh et Horeb, ce rocher frappé par la main du Père qui a fait que de ce rocher a coulé une source de vie énorme pour le peuple d'Israël dans le désert. Et puis après une quarantaine d'années, 38, 37 ans après, une deuxième expérience, une deuxième étape, où là encore le peuple est assoiffé, et là encore Dieu l'a conduit dans un contexte de vie difficile. Et là encore, l'eau du rocher va couler par grâce. Et je me dis, mais oui, oui. Et j'ai cherché des versets comme par exemple Éphésiens 4:30, où on peut voir que le Saint-Esprit peut être attristé. Oui. Et puis 1 Thessaloniciens 5:19, où on peut voir que l'Esprit Saint peut être éteint. Je me dis oui. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit est attristé, qu'il soit éteint par moment, jusqu'à ce que Dieu nous relève? Mais quand même, ce sont des choses qui nous freinent, qui nous ralentissent. Eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est notre chair qui nous pousse vers des choses qui attristent le Saint-Esprit, voire même qui l'éteignent. Mais ça, ce sont des choses inhérentes à la vie chrétienne. Il suffit, c'est pas parce qu'on en parle que la chose va disparaître, mais c'est bien d'être averti. Je suis appelé à porter les fruits de l'Esprit, parce que l'œuvre du Saint-Esprit est de me rendre conforme à l'image de Christ. Ok. D'être de plus en plus semblable à lui. D'accord. Maintenant, je comprends que par ma chair, par les tentations, et plus que jamais aujourd'hui avec l'esprit de l'Antichrist qui pousse à l'apostasie et qui est en train d'agresser le monde comme jamais il a été agressé et agresser l'Église, plus que jamais aujourd'hui. Faire attention parce que oui, ces choses, je peux attrister le Saint-Esprit et je peux faire en sorte qu'il soit éteint. Et si ces choses arrivent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Les fruits de l'Esprit vont disparaître petit à petit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre. C'est pas nous, ça vient pas de nous. C'est pas je prends l'amour du Saint-Esprit, je prends la paix, je prends la joie, je mets ça dans une poche et je m'en sers quand je veux. Non, c'est une personne qui vit en nous qui nous rend semblable à Christ. D'accord? Là, ça change. Alors, je vous emmène dans le désert avec les Hébreux, pour recevoir des petites glanures, ce que j'appelle des glanures, des choses qui vont nous aider, qui vont peut-être nous éclairer, ou simplement un rappel Kadesh, hein, la deuxième étape où le Seigneur va dire à Moïse, ne frappe pas le rocher, tu vas lui parler. Bon, il l'a frappé, on connaît l'histoire. Mais on trouve ça dans Nombre 20, versets 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi, ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Il n'y a pas de condition. Tu feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée, leur bétail, etc. Et ça m'a amené au texte de Jean 7, versets 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Nulle part ailleurs. Qu'il vienne à moi par le Saint-Esprit. Je vis en toi. Viens à moi. Et qu'il boive. Celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est aussi, ça nous montre aussi quelle a été la force du Seigneur sur cette terre pendant 3 ans. Il marchait par l'Esprit. Et il savait que sa vie dépendait du Saint-Esprit. Et cette vie, cette marche par l'Esprit l'a poussé à ne vouloir dire que ce que le Père voulait qu'il dise et à vouloir faire que ce que le Père voulait qu'il fasse. Quelle obéissance et quelle consécration, quel renoncement à lui-même. Mais il savait que c'était ce chemin d'obéissance absolument qu'il devait emprunter pour que les autres soient bénis par le Père. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alors, une des premières glanures que j'aimerais laisser sur votre cœur, lorsque nous sommes devant le rocher, lorsque nous venons à Christ, lorsque nous faisons la démarche de venir à Christ, et des fois même, Dieu nous aide à faire cette démarche en nous plaçant dans un désert aussi. C'est une façon à lui de nous aider. Vous avez jamais remarqué cela? Que nous passons des fois par des déserts où on n'a plus d'eau, on a soif. La soif. Et sans s'en rendre compte, on ne voit pas l'œuvre de Dieu. On ne voit pas que c'est Dieu qui nous place dans ce désert pour que nous crions « Seigneur, Père, j'ai soif », pour qu'il puisse nous abreuver, pour qu'il puisse nous alimenter de sa vie, de l'eau de la vie. Il nous met des fois dans la difficulté, il permet la difficulté pour que nous crions à lui. C'est une aide, c'est un secours. Donc les déserts ne sont pas à fuir, ne sont pas forcément à chasser parce qu'on croit que toujours Satan est derrière lorsqu'on passe par une difficulté, par une tempête ou un désert. Non, ça peut être souvent quelque chose que Dieu permet comme il l'a fait pour son peuple, afin qu'il crie à lui. Parce que Dieu veut plus que quiconque inonder son peuple, alimenter son peuple, désaltérer son peuple, désaltérer ses enfants. S'il y en a un qui veut le faire, c'est bien lui. Il veut l'inonder de sa vie, l'envahir de sa vie, parce que sa vie est une personne, sa vie c'est Jésus-Christ. Donc il veut envahir son peuple, il veut envahir ses enfants de sa propre personne, parce que celui qui a vu Christ a vu le Père. C'est lui-même qu'il veut, il veut se donner à son peuple, il veut se donner à son enfant à travers l'eau de la vie. Et tout ça c'est une seule et même chose. Nous l'avons compris. Mais tout ça s'est répandu par le Saint-Esprit. Kadesh, c'est ça. On vient et puis on vient au trône de la grâce. On vient au trône de la grâce. On vient au trône de la grâce comme on est. De la même manière que lorsque le Saint-Esprit nous a appelés à croire dans notre Sauveur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce salut? Quelle aide a-t-on apporté au Seigneur pour qu'il nous fasse passer de la mort à la vie? Aucune. Et les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Le trône de la grâce est toujours accessible de la même manière. Et ce trône de la grâce, eh bien, il est fait pour donner grâce. Il est mandaté, il est fait pour apporter la grâce, pour souffler la grâce, pour donner l'eau de la vie. Et cette eau-là, c'est la vie éternelle. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Kadesh. À Kadesh, il y a eu un décret, ce que j'appelle un décret royal. Un décret royal que l'on peut... Je cherche le verset, ça sera Romains 10, 13. Un décret royal... Romains 10, 13. C'est que il va instaurer quelque chose. C'est que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pas seulement pour venir au salut. C'est constamment. Constamment. C'est un décret royal. Kadesh est un décret royal pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre, pour tous les croyants, les non-croyants, s'ils veulent venir, mais surtout aussi pour les croyants. Un décret royal. On ne revient pas sur ce décret. On ne revient pas sur le décret de Dieu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque parlera au rocher sera abondamment désaltéré par l'eau de la vie. Quiconque. Quiconque. Et notez que la situation des Hébreux, à ce moment-là, elle n'était pas folichonne. Ils étaient dans le murmure, dans la rébellion, dans la contestation. C'est important de le souligner. Le trône de la grâce. Alors ça ne veut pas dire que ça nous permet de faire tout ce qu'on veut, on le sait, etc. Mais il y a des moments où on se retrouve, il faut l'avouer, dans cette même position. On murmure, on n'est pas content. Alors appelez ça comme vous voulez. Mais Dieu connaît, il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes faits. Et nous devons savoir de quoi lui il est fait. Absolument. Pour venir tel que nous sommes, pas seulement quand ça va bien, pas seulement quand on est en forme spirituellement. Non, quand tout va mal, quand on est rebelle, quand on est fatigué, quand on a péché, quand on est dans notre faiblesse, c'est là qu'on a du mal à venir au trône de la grâce. Vous avez remarqué? C'est là qu'on a du mal, parce qu'on se sent indigne. Alors j'aimerais te dire ce matin de la part du Seigneur, ne te sens pas indigne au point de ne pas t'approcher du rocher de Kadesh, du rocher de la grâce. Parce que Christ est mort pour que tu puisses le faire. C'est un décret royal. On ne revient pas sur la parole de Dieu. Comme tu es, va au trône de la grâce. Va devant le rocher. Le Père a dit, par le rocher. Ne le frappe pas. Par le rocher. Et le rocher te donnera des eaux en abondance. Encore une chose que je vous fais remarquer. Le rocher n'a pas contesté. Il n'a pas donné de conditions. Il n'a pas discuté avec Dieu. Oui, mais regarde le peuple, non, le rocher, on le sait, c'est Christ. En Horeb, lorsque le rocher a été frappé, on sait que c'est Christ crucifié. Là, à Kadesh, c'est autre chose, c'est une autre étape, on va dire. C'est peut-être une étape d'un chrétien, d'un croyant qui est fatigué, qui pour une raison ou une autre, on l'a dit tout à l'heure, peut-être que l'esprit est attristé, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais en tout cas, il n'est pas en forme. Ça, c'est Kadesh. Et de la même manière, ce matin, il nous invite, de la même manière, je le répéterai, de la même manière que nous sommes venus à Horeb, vers ce rocher qui a été frappé pour découvrir notre salut, aujourd'hui, venons à lui sur ce rocher, surtout qu'il ne faut pas frapper, mais simplement lui parler. Pour retrouver la vie, peut-être retrouver la Pentecôte dans notre vie, peut-être retrouver un nouveau souffle dans notre vie, que lui seul peut nous donner l'eau de la vie. Alors le rocher ne conteste pas. Et on va dire ça autrement, donc, Christ ne conteste pas. Il va pas dire à son Père ceci, cela. Non, il sait, lui, il sait qu'il a été mandaté pour abreuver le monde de sa vie et de sa vie de résurrection, de son salut. Il le sait. Il le sait. On va le voir autrement dans un autre verset. Luc 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Le rocher sait qu'il a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Discute pas. Sa vocation, c'est de répandre la vie. Et la vie en abondance. Par grâce. Il le sait. C'est fantastique. C'est extraordinaire. Est-ce que tu veux vraiment me bénir? Est-ce que tu crois que il est envoyé, il a été oint pour nous annoncer cette bonne nouvelle aussi, celle que je vous annonce ce matin. On est peut-être pauvre intérieurement. On l'a dit. Il a été envoyé pour guérir. Guérir de nos maladies. On en parlera tout à l'heure quand on priera. Mais guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé. Et combien je sais que notre Père a une tendresse extraordinaire pour les cœurs brisés. Même chez ses enfants. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu es captif de quelque chose ce matin? Il a été oint pour répandre ses eaux qui vont te délivrer. Il le fera comme il le veut, en son temps, il le fera. Va. Tu es captif, captive? Ok. Va au rocher. Et tu découvriras la liberté, la libération dans cette eau vive, dans cette eau de la vie. Et puis, il parle aussi aux aveugles. Est-ce que nous sommes aveugles ce matin sur certaines choses, sur la volonté de Dieu, sur notre existence en Christ, dans ce monde, etc., etc. Aveugles sur certaines portions de la parole, aveugles sur, etc., etc. Eh bien, allons au rocher. On ira tous ensemble tout à l'heure dans la prière, si vous le voulez bien. Je n'ai rien à voir avec le grand serviteur de Dieu qu'était Moïse, mais je vais juste m'identifier à lui et on viendra tous ensemble au rocher dans la prière, si vous le voulez bien. Mais allons au rocher. La seule chose qui peut nous rendre la vue, c'est l'eau vive. C'est le collyre qui va nous rendre la vue. C'est sa présence à travers son esprit. Renvoyer libres les opprimés. Comme un... Il faut que je dise ça bien. Il m'est arrivé de faire semblant d'être joyeux. Parce que j'ai été opprimé par différentes choses, mais devant les autres, il faut montrer que tout va bien. Et en particulier devant les chrétiens. Il faut que je mette un sourire sur mon visage alors que ça va pas. Parce que si je le fais pas, je vais peut-être pas retrouver en face de moi des gens assez sanctifiés, assez profonds pour comprendre comme le Père comprend les cœurs brisés. C'est comme ça. Eh bien, si je suis opprimé, J'ai encore une bonne nouvelle ce matin. Le trône de la grâce s'occupe aussi des cœurs opprimés, de renvoyer libres les cœurs qui sont opprimés. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Faut bien, alors le cadre, c'est toujours l'eau de Kadesh. L'eau, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est l'onction de Dieu à travers son esprit. Je le répète, parce que c'est la base. On a tellement tendance à mettre ça de côté, par nature ou par tentation. Publier une année de grâce, on l'a chanté, on l'a dit, publier une année de grâce, l'eau du rocher, la vie nouvelle en Jésus-Christ tel que nous sommes. Et si on a fauté, si on est tombé, si on est fatigué, eh bien Dieu veut faire en sorte que notre vie abonde tout à nouveau de sa grâce, sans reproche, à cause de Jésus-Christ, sans reproche, à cause de Jésus-Christ. Alors, surtout, ne disons pas « je suis indigne », parce que là, je vous renvoie vers de nouveau un autre verset, Romains 5, versets 20 à 21. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et c'est exactement ce qu'ils ont vécu dans le désert. » Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus, notre Seigneur, par le rocher de Kadesh, qui n'a qu'une seule envie, c'est de répandre ses eaux dans nos vies ce matin. Et on voit que c'est une période dans le désert où l'on peut appliquer ce verset. Le péché a abondé à travers tous leurs murmures et la grâce a surabondé à chaque fois, a surabondé. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences à nos mauvais choix, parce que certains n'ont pas pu rentrer dans le pays de la promesse à cause de ça. Mais c'est pas le sujet. Ce matin, notre sujet, c'est venir parler au rocher pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la vie en abondance, pour pouvoir nous préparer pour son retour. Parce que les vierges folles n'avaient pas de réserve, elles avaient toutes de l'huile, mais pas de réserve. Elles n'avaient pas de réserve. Et chose étrange, mais on comprend, les vierges folles, elles ne sont pas allées vers le rocher pour demander de l'huile. Elles ne sont pas allées vers Christ. Elles ont été vers les autres vierges. Et peut-être que ça a été leur erreur. Elles ont été vers les autres vierges pour demander de la réserve d'huile. Non, il fallait courir au trône de la grâce. Courir vers celui seul qui peut te donner cette huile du Saint-Esprit. Afin de te préparer pour son retour. Afin d'être prêt, non pas en toi-même, on l'a compris, mais parce que le Saint-Esprit va t'inonder et va faire en sorte que la vie de Christ règne en toi. Encore une glanure, quelque chose d'important. Oui, je vais vers le rocher. Et puis, il y a une petite parole qui m'a interpellé lorsqu'il va dire « Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. » Pas les nôtres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si Dieu dit de demander de l'eau, on n'a pas à lui demander une autre boisson. Ça veut dire que la grâce, elle prendra la forme et la couleur que Dieu veut lui donner. Et je me suis vu aussi demander la grâce de Dieu en lui disant « Oui, mais la grâce de Dieu doit prendre cette forme-là. Tu dois agir dans tel domaine. Tu dois faire ça comme ça. Je veux que ça, qu'elle ait cette couleur-là. » Et que... Là, on va perdre du temps. « Seigneur, je ne connais pas tes eaux, mais je sais qu'elles apportent la vie. » Donc, sans comprendre, sans connaître, donne-moi la vie. Parce que cette vie de Christ a une particularité énorme, c'est qu'elle est, elle est, elle est, elle est faite de tous les éléments nécessaires pour l'alimentation de notre homme intérieur. Tout ce dont nous avons besoin en termes de choses spirituelles, la vie de Dieu est la seule vie qui est capable de nous alimenter et de nourrir notre homme intérieur afin qu'il croisse, qu'il grandisse en Jésus-Christ. Demandez les eaux du rocher, pas les nôtres. Et s'il a voulu que les choses en soient ainsi, c'est pour notre bien. Parce que là encore, on se trompe tellement facilement. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Cherche donc ce que moi je veux te donner. Et ça sera le meilleur. Parce que je sais ce qu'est le meilleur pour toi. Je sais ce dont tu as besoin. Sans que tu sois obligé d'en parler. Je sais. Je sais. Et là, Jacques, nous le rappelle aussi à travers un verset. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous demandez pas. Ou alors, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire, dans le but de satisfaire ce que vous voulez. Donc, là, il y a un écueil. Là, il y a quelque chose de dangereux. Et il veut nous le rappeler aussi ce matin. Alors, avant de prier, il ne faudra jamais qu'on oublie aussi une chose, c'est que Satan n'aura de cesse de nous faire taire. Il ne veut pas que l'on crie à Dieu. On pourra faire plein de choses, même des choses spirituelles. À la limite, est-ce que ça va le déranger? Je sais pas. Mais la seule chose qui va le déranger, c'est quand on crie à Dieu. La seule chose qui va le déranger, c'est quand on demande à Dieu de nous remplir de son esprit, parce que c'est son esprit qui va vaincre le dragon, et personne d'autre. Là, il est dérangé. Il n'aura de cesse de nous faire taire. De nous faire taire. Alors, on le voit à travers, par exemple, Jésus, lorsqu'il rentre à Jérusalem et que tout le monde l'acclame, vous vous souvenez? Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. Et puis, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, maître, reprends tes disciples. Voyons. Un peu d'ordre. Vous entendez le sifflement du serpent? Vous l'entendez derrière? Il voulait les faire taire. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parce que c'est hors de question qu'ils se taisent. Il y a un enjeu phénoménal à chercher, à crier auprès de Dieu pour recevoir sa grâce et une grâce abondante. Et puis il y a l'aveugle de Jéricho. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et puis ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Mais lui criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de nous. Vous entendez le sifflement du serpent encore? Parce qu'il mettra dans nos vies toutes sortes d'artifices pour que nous arrêtions de crier à Dieu, pour chercher auprès de Dieu notre délivrance et l'eau vive. Toutes sortes de choses. Et il est malin. Et il est malin. Mais lui, il va crier plus fort. Parce que ce qu'il veut, c'est la grâce de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il criait beaucoup plus fort. J'aime cette parole. Fils de David, aie pitié de moi. Et voyez, dans cette prière-là, c'est pas une longue prière, hein. C'est juste tout simple. C'est un cri. C'est un cri. Et il lui a même pas dit, enfin bref. Fils de David, aie pitié de moi et l'eau vive. a coulé. L'eau vive a coulé du rocher et l'a alimenté. Alors, je reviens sur l'aveuglement. À travers cet aveugle de Jéricho, là aussi, peut-être qu'on peut, je reviens sur ce sujet, on peut reconnaître un certain aveuglement dans nos vies sur la parole, sur des réalités de Dieu, sur la communion avec Dieu, un aveuglement sur les pensées de Dieu, sur les plans de Dieu, et puis surtout sur qu'est-ce que je fais sur cette terre en tant que chrétien, notre aveuglement. À quoi je sers? Et puis notre aveuglement sur telle ou telle situation, tel ou tel conflit, voilà, telle ou telle chose qui se passe, ou même notre aveuglement sur les choses dans le monde qui vont mal, etc., etc. Parce que Dieu veut nous ouvrir les yeux, il veut nous parler, il veut nous révéler les choses, il veut nous répéter ce qui est dans sa parole. Mais voilà, comme je reconnais cet aveuglement souvent dans ma vie, dans ma propre vie, aveuglement simplement sur les choses spirituelles, sur les choses qui vont me faire grandir. Et c'est le moment là de demander au rocher de répandre son eau, et je l'ai appelé tout à l'heure le collyre de Dieu, c'est-à-dire ce qui va soigner notre aveuglement. Et ça ne peut venir que de l'eau vive, ça ne peut venir que de la présence de Dieu, ça ne peut venir que par l'onction du Saint-Esprit. Ça ne peut pas venir d'autre chose, et Dieu mettra son collyre. Il nous le donnera, il nous aidera, il nous ouvrira les yeux et on verra. Comme l'aveugle a retrouvé la vue, on verra, on va voir, et on va voir avec les yeux de notre cœur. Mais on verra. Et cette lumière qui va venir en nous, elle va être libératrice. Parce que la lumière va détruire les ténèbres qui sont en nous pour apporter la lumière et nous donner la vue. Nous donner la vue. Et là, tout change. Tout change. Et là, tout change. Même notre adoration. Ce collyre. J'aimerais terminer maintenant, juste avant qu'on prie ensemble, si vous êtes d'accord, par un autre passage. Luc 11, versets 9 à 13, qui nous dit « Car quiconque demande, reçoit. » Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et là, quand il dit le Saint-Esprit, c'est pas seulement le Saint-Esprit de notre baptême un jour, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est un renouvellement constant. Il donnera le Saint-Esprit, c'est-à-dire il donnera l'effusion de Kadesh, il donnera son eau vive, ça sera un éternel recommencement, puisqu'il y a des choses qui font en sorte qu'on se vide, il nous remplira, et il nous remplira, et il nous remplira encore, pour garder ce rythme de croissance spirituelle et de victoire. Il donnera son esprit sans reproche, parce qu'il sait qu'on en a besoin, que c'est vraiment le centre de notre victoire. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? On le fait ensemble, courtement. Je vous propose de vous lever dans cet état d'esprit. Et comme introduction très courte, hein, on va pas passer, mais simplement, on va parler au rocher ensemble. Et si après ma prière, si quelqu'un vous désirez aussi le faire, comme l'aveugle de Jéricho, une prière courte. Seigneur, aie pitié de moi. Et Dieu dans sa grâce, il entend ça. Il entend ce genre de prière. Mais juste avant de prier, encore une fois, je veux nous rappeler quelque chose. C'est que, à travers le sacrifice de Jésus, Dieu prouve au monde entier qu'il veut nous bénir. Sans condition. Vous voulez une preuve ? Regardez le sacrifice. Seigneur, est-ce que tu peux me bénir ? Oui. Est-ce que tu veux me bénir ? Je pense qu'on a fait le tour. Le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu a pris les devants. À travers ce sacrifice, il a prouvé au monde entier et à nous ce matin qu'il a tout accompli pour bénir l'humanité tout entière à travers Jésus-Christ. C'est une preuve de ce qu'il peut et de ce qu'il veut nous apporter ce qui est inimaginable pour notre vie. Ce qui est impossible aux hommes sera possible à Dieu. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Est-ce que on va au rocher et on va lui demander sa grâce telle qu'on est, ses eaux à lui, telle qu'on est, et puis encore une pensée qui vient, mais à la limite, si vous en avez pas besoin pour vous, peut-être parce que Moïse, c'était aussi pour le peuple qu'il y a été. Alors peut-être que en même temps que vous, vous voulez représenter d'autres personnes. Eh bien, c'est possible aussi. Soyez le mouchoir de Paul, qui va aller guérir d'autres encore à travers l'onction du Saint-Esprit. Il faut simplement que ça soit de l'authentique, par son Esprit. Seigneur, nous venons à toi. Là, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de fausse humilité. On sait que tu as tout accompli pour que nous puissions justement ce matin venir à toi librement, tel que nous sommes. Nous te demandons de répandre tes eaux, Jésus. Nous te demandons de répandre tes eaux dans nos vies. Dans nos corps. Pourquoi dans nos corps ? Parce que je suis un membre de ton corps et ton corps est parfait. Il n'y a absolument aucune source de maladie. Donc je viens aussi pour recevoir la guérison. Sans condition. Je viens te demander tes os pour mon psychique, pour mon aveuglement, pour mon péché caché. Pour pouvoir vivre la vie de Jésus-Christ, pour pouvoir retrouver la joie de mon salut, me consacrer, avoir de l'huile pour ton retour, je viens à toi. Répands tes eaux, Jésus, répands tes eaux maintenant, je te le demande, au nom de Jésus-Christ, sur chacun, sur chacune. Et rien ne peut t'empêcher, aucun obstacle ne peut t'empêcher ce matin de nous faire grâce. Amen.